Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur le podcast de voixpoétiques.com. Je suis David et aujourd'hui je vais partager avec vous un poème qui plonge au cœur même du mythe fondateur de la conscience occidentale, celui de la chute, de la rébellion première, de cette lumière qui devient ténèbre en cherchant à devenir soleil. Ce texte explore les profondeurs abyssales où se rencontrent l'humain et l'angélique dans leur commune déchéance, leur commune aspiration, leur commune solitude face à l'absolu. En écrivant ces quelques vers, j'ai voulu explorer non pas le personnage mythologique dans sa dimension religieuse ou morale, mais comme archétype de la condition existentielle. Celui qui apporte la lumière et chute éternellement, celui dont la rébellion définit à la fois sa grandeur et sa tragédie. C'est une méditation sur l'orgueil créateur, sur la beauté terrible de celui qui refuse, sur la fraternité étrange qui unit tous ceux qui tombent. Ce poème n'est pas une théologie, mais une phénoménologie de la chute, une exploration de cet état de suspension perpétuelle entre ciel et terre, entre lumière et ténèbres, entre aspiration divine et réalité terrestre. C'est le récit d'une rencontre au bord de l'abîme, là où deux solitudes se reconnaissent dans leur commune déchéance. Permettez-moi, comme à mon habitude, de vous lire avant tout ce texte dans sa noirceur lumineuse et dans sa beauté apocalyptique. Les ombres tombèrent du ciel en lames de feu consumées, recouvrant la terre d'une odeur de braise, me rappelant aux pensées d'un futur déjà éteint. Nul devin ni divin ici ne sauvera cette terre brûlée. Être soleil ardent a toujours été son souhait, je le sais bien. Mais, comme à l'accoutumée, uniquement une lueur, il sera ceci, ou rien. Incarner les enfers, enfin concrètement, révélerait son essence véritable. Et l'ange tombe indéfiniment du ciel en une vision d'apocalypse qui n'en épargnera aucun. En cette fin des temps, je suis assis là, sur ce rocher, écoutant les murmures du vent, chant d'un lointain passé où les combats des hommes victorieux me sont contés d'un souffle entêtant, réduisant l'histoire en une poussière de temps. Je reste vide face à ces pleines grâces d'un verre qui me dépasse. Je perçois cette lame de feu en moi, mais l'eau du ciel l'éteint instantanément, sans compassion, et je glisse dans les abysses du monde, infiniment sans fond. En cet instant, Dieu me parle directement et me demande « Crois-tu en moi ?» Mais pourquoi devrais-je croire en quoi ou qui que ce soit ? L'ange chute éternellement et je le regarde. Avec moi, ici, sans fin, la seule chose en laquelle je crois et celle qui est avec moi. Ses ailes de chaos caressent l'écorce du monde. Leurs battements donnent le tempo au cœur des hommes, et les passions les brûlent du sein qu'il leur donne. Je les regarde boire le lait divin de cette chose qui s'offre, ici, sans concession, pour l'âme de ces pauvres hommes. Un seul lui a résisté, ici, dans ce désert humain. Depuis, ensemble, nous sombrons indéfiniment dans le brouhaha d'une boule n'ayant plus de bleu que ses abysses recouvertes des bateaux, voguant vers un horizon vaporeux. Alors, seul être vertueux, maintenant crois en nous, aime-nous, comme tu as su nous aimer, dès le premier jour, de ta chute infinie et ta patience sans fin. L'ouverture apocalyptique du poème nous plonge immédiatement dans un monde post-catastrophique où les ombres elles-mêmes deviennent matière ignée, où l'obscurité brûle et tranche comme des lames. Nous sommes dans l'après d'un événement cosmique qui a bouleversé l'ordre même de la réalité physique et métaphysique. Ces ombres incandescentes qui tombent du ciel portent en elles le paradoxe d'une lumière obscure, d'une clarté qui aveugle en révélant trop. L'odeur de braise qui emplit l'atmosphère terrestre transforme notre planète en brasier refroidissant, en cendre encore chaude d'une conflagration divine. Le futur déjà éteint dont je parle dessine une temporalité brisée où l'espérance même est morte avant de naître. Nous sommes dans un temps eschatologique où la fin a déjà eu lieu mais continue de se produire, où l'apocalypse n'est pas un événement ponctuel mais un état permanent. Cette extinction préalable du futur place l'existence dans une sorte de perpétuel présent, sans horizon, sans possibilité de projection ou de transcendance temporelle. L'impossibilité du salut, qu'il vienne du devin ou du divin, établit le cadre d'un univers abandonné où aucune providence ne veille, où aucune prophétie ne peut orienter. La terre brûlée devient le théâtre d'une tragédie sans rédemption possible, un espace où se joue éternellement le drame de la chute sans espoir de relèvement. Cette absence radicale de salut n'est pas désespoir, à mon sens, mais plutôt un constat lucide d'une condition existentielle où l'homme et l'ange déchu partagent le même abandon. Le désir solaire qui anime mon porteur de lumière révèle la nature profonde de sa rébellion. Non pas une volonté de destruction, mais une aspiration à la plénitude lumineuse, au rayonnement absolu. Cette aspiration à être source plutôt que reflet, origine plutôt que dérivation, constitue le cœur de la transgression originelle. Mais cette aspiration est condamnée à rester aspiration. Lueur plutôt que soleil, approche plutôt qu'accomplissement. La tragédie du porteur de lumière réside dans cette condamnation à l'entre-deux, à n'être ni ténèbres complètes, ni lumière totale, mais cette zone crépusculaire où la conscience de ce qu'on pourrait être torture la conscience de ce qu'on est. L'incarnation des enfers apparaît alors non comme punition, mais comme révélation d'une essence qui était déjà là, cachée sous l'apparence angélique. Les enfers ne sont pas le lieu où il est envoyé, mais le lieu qu'il devient. La géographie intérieure qui s'extériorise, la vérité profonde qui se manifeste, cette vision des enfers comme une sorte de révélation plutôt que comme châtiment, transforme notre compréhension de la chute. Elle n'est pas une déchéance, mais plutôt un dévoilement par dégradation, mais manifestation de ce qui était latent. La chute indéfinie de l'ange crée une nouvelle catégorie ontologique, l'être en chute perpétuelle. Il ne s'agit plus d'un passage d'un état à un autre, mais d'un mode d'existence sui generis, où le mouvement descendant devient l'essence même. Cette chute sans fin, ni fond, dessine un univers vertigineux où les repères habituels du haut et du bas perdent leur sens, où l'orientation spatiale et morale se dissout dans le mouvement perpétuel. L'ange qui tombe éternellement devient le symbole de tous les mouvements sans terme, de toutes les quêtes sans objet, de toutes les dynamiques qui se nourrissent d'elles-mêmes. Alors, je suis assis sur le rocher, et j'adopte la posture du contemplateur détaché, du philosophe qui observe l'apocalypse depuis un promontoire mental. Un petit peu comme ce Socrate que j'aime tant et qui a été pris par les soldats en pleine méditation sur ce rocher face à l'horizon. Mon rocher ici devient l'île de conscience au milieu du chaos, le point d'Archimède depuis lequel je pourrais observer sans être emporté. Les murmures du vent qui racontent les victoires passées transforment l'histoire humaine en bruit de fond cosmique, en rumeur insignifiante face à l'éternité de la chute. L'histoire se pulvérise en poussière temporelle, perdant toute consistance narrative pour devenir pure matière dispersée par le vent. Le vide, ressenti face aux pleines grâces, révèle l'incapacité structurelle à recevoir la beauté quand on a contemplé l'abîme. Le vert de la nature, symbole de vie et de renouveau, devient incompréhensible pour celui qui a vu la mécanique profonde de la chute. Cette incompréhension n'est à mon sens pas un aveu d'ignorance, mais un excès de connaissance, saturation cognitive qui rend impossible l'innocence de l'émerveillement. Je me sens ici condamné à voir l'envers du décor dans chaque manifestation de beauté, à percevoir l'ombre de la chute dans chaque grâce offerte. La lame de feu intérieure qui s'éteint sous l'eau céleste dessine le drame de toute velléité de rébellion face à l'ordre cosmique. Cette extinction sans compassion révèle un univers où les élans prométhéens sont systématiquement étouffés, où la flamme de la révolte ne peut survivre à la pluie divine. Le glissement consécutif dans les abysses montre que l'extinction de la rébellion ne mène pas à la paix, mais plutôt au néant, que la soumission forcée est une forme de mort spirituelle. L'interprétation divine directe pose la question centrale de toute théologie, celle de la foi face à l'évidence même de Dieu. Le refus que je pose ici de croire, même face à la théophanie directe, constitue l'affirmation ultime de l'autonomie spirituelle. Ce n'est pas l'athéisme de celui qui nie, mais le refus principiel de celui qui ne veut pas abdiquer sa liberté, même devant l'absolu. La croyance devient alors non pas une reconnaissance de l'évidence divine, mais un choix existentiel de fidélité à ce qui nous accompagne dans la chute. L'ange éternellement chutant devient l'objet d'une foi paradoxale, non pas malgré sa chute, mais précisément à cause d'elle. Il incarne la fidélité à la condition partagée, la solidarité dans la déchéance, la fraternité des abandonnés. Croire en lui, c'est croire en celui qui comprend notre condition parce qu'il la vit infiniment, qui partage notre vertige parce qu'il en est l'incarnation perpétuelle. Les ailes de chaos qui caressent l'écorce terrestre transforment la catastrophe en influence subtile, la destruction en séduction. Le chaos n'est plus désordre brutal, mais principe d'animation, force qui donne le mouvement et le rythme à l'existence humaine. Les battements d'ailes de l'ange déchu deviennent le métronome secret de nos cœurs, le tempo caché qui va orchestrer nos passions. Cette vision fait de lui non l'adversaire de l'humanité, mais plutôt son animateur occulte, celui sans lequel nos cœurs ne battraient que mécaniquement. Le lait divin paradoxal qu'offre l'ange déchu nourrit l'humanité d'une substance ambiguë à la fois poison et remède, connaissance et perdition. Ce saint nourricier, inversé, allait les hommes, non de tendresse maternelle, mais plutôt de feu passionnel, non d'innocence, mais plutôt d'expérience. Les pauvres hommes qui s'en nourrissent ne sont pas victimes, mais plutôt des participants volontaires à cette Eucharistie inversée, où l'on communie avec la transgression plutôt qu'avec la transcendance. La résistance solitaire mentionnée dans mon poème établit une exception qui confirme la règle. Un seul être qui n'a pas bu à cette source empoisonnée et délicieuse. Cette résistance unique crée paradoxalement un lien encore plus fort avec l'ange déchu. Ensemble, ils sombrent dans le brouhaha cosmique, unis, non par la séduction, mais par la reconnaissance mutuelle de leur solitude respective. Cette chute commune du résistant et du tentateur abolit la distinction morale traditionnelle pour créer une nouvelle catégorie, celle des compagnons d'abîme. Le monde, personnifié ici comme une boule sans bleu, évoque une terre qui a perdu son ciel, où seules subsistent les profondeurs marines, comme dernier vestige de l'azur perdu. Les bateaux, voguant vers des horizons vaporeux, dessinent une humanité en dérive perpétuelle, cherchant des terres promises qui se dissolvent à l'approche. Cette navigation sans destination devient donc une métaphore de la condition post-lapsaire, où tout voyage est errance, toute quête est poursuite de mirages. L'apostrophe finale constitue une prière inversée, une demande d'amour adressée non pas au divin mais au déchu. La vertu paradoxale de celui qui chute éternellement réside dans sa constance, dans sa fidélité à sa chute même. Cette passion sans fin, qui ici m'anime depuis le premier jour de sa descente infinie, devient l'objet d'admiration et d'identification. La demande d'être aimé comme on a su aimer dès le début de la chute établit une réciprocité dans la déchéance, une communion dans la transgression. L'inversion ici des valeurs traditionnelles traverse l'ensemble de mon poème. La chute devient une élévation spirituelle. La damnation devient liberté, la transgression devient fidélité à soi. Cette transvaluation n'est pas simple négation nihiliste, mais affirmation d'un autre système de valeurs fondé sur l'authenticité de l'expérience, plutôt que sur la conformité à un ordre transcendant. Le porteur de lumière devient porteur d'une vérité alternative, d'une sagesse de la chute qui vaut bien la sagesse de l'élévation. Je pense. La dimension gnostique de mon texte transparaît dans cette vision d'un monde abandonné par le divin où la vraie connaissance vient de celui qui a transgressé plutôt que de celui qui ordonne. Le cosmos devient prison dont l'ange déchu détient paradoxalement les clés. Non pas pour en sortir, mais pour en comprendre la nature carcérale. Cette gnose inversée fait de la chute la condition de la connaissance véritable, du refus la condition de la liberté authentique. L'érotique mystique qui sous-tend le poème transforme la relation avec l'ange déchu en histoire d'amour impossible et pourtant nécessaire. Le désir qui unit mon personnage en tant que poète observateur, à celui qui chute éternellement, transcende les catégories morales pour devenir pure attraction ontologique. Magnétisme des âmes perdues qui se reconnaissent dans leur commune perdition. Cette érotique de l'abîme fait de la chute commune une forme d'union mystique inversée où l'on fusionne non dans l'ascension, mais plutôt dans la descente. La temporalité brisée de mon poème crée un présent éternel de la chute où passé et futur s'abolissent dans le mouvement perpétuel de la descente. Cette suspension temporelle place l'expérience hors de l'histoire linéaire dans une sorte d'éternité négative où chaque instant contient la totalité de la chute sans jamais réellement l'accomplir. Le temps devient spirale. Une spirale descendante, infinie, une structure vertigineuse, où l'on tourne en tombant sans jamais réellement toucher le fond. L'esthétique du sublime terrible traverse l'ensemble de mon texte. La beauté n'est plus harmonie, mais chaos maîtrisé. Non plus équilibre, mais vertige assumé. Cette esthétique de la chute fait de la destruction une forme d'art, de l'effondrement une chorégraphie, de l'apocalypse un spectacle grandiose. Le sublime ici n'élève pas, mais aspire vers le bas, créant une extase inversée où l'on jouit de sa propre perdition. La politique métaphysique du poème établit un nouveau contrat social fondé sur la reconnaissance mutuelle de la chute plutôt que sur l'aspiration commune à l'élévation. Cette démocratie des damnés abolit les hiérarchies traditionnelles pour créer une égalité dans la déchéance, une fraternité dans l'abandon. Le seul critère de valeur devient l'authenticité de la chute, la fidélité à sa propre damnation. L'ontologie de la chute perpétuelle redéfinit l'être non plus comme substance stable, mais comme mouvement perpétuel, non plus comme essence fixe, mais comme devenir sans terme. Être, c'est tomber. Exister, c'est chuter. Vivre, c'est descendre sans fin. Cette ontologie dynamique fait du repos une sorte d'illusion, de la stabilité, un mensonge, du sol ferme, une forme de chimère. Nous sommes tous en chute libre depuis notre naissance et l'ange qui tombe éternellement n'est que l'image parfaite de notre propre condition. La théologie négative qui structure mon poème approche le divin parce qu'il refuse ce qu'il exclut, ce qu'il damne. Dieu devient visible dans son absence, compréhensible dans son silence, présent dans son retrait. Cette approche apophatique fait de l'ange déchu le révélateur paradoxal de la nature divine. En montrant ce que Dieu rejette, il révèle ce que Dieu est. La chute devient une sorte de théophanie inversée, révélation par l'ombre plutôt que par la lumière. L'alchimie spirituelle inversée transforme le plomb de la chute en or noir de la conscience, transmute la déchéance en connaissance, sublime la damnation en liberté. Cette alchimie à rebours ne cherche pas l'élévation, mais plutôt l'approfondissement, non pas la purification, mais l'intensification de l'impureté jusqu'à ce qu'elle devienne sa propre forme de pureté paradoxale. La fraternité des maudits qui se dessine dans le poème transcende les distinctions morales traditionnelles pour créer une communauté fondée sur la reconnaissance mutuelle de l'exclusion. Cette fraternité n'unit pas dans l'espoir, mais dans le désespoir assumé. Non dans la foi, mais dans le doute radical. Non dans l'amour du bien, mais dans la fidélité au mal nécessaire. C'est une communion des réprouvés qui trouve sa noblesse dans son exclusion même. L'héroïsme de la chute transforme l'échec en gloire, la défaite en victoire paradoxale. L'ange qui tombe éternellement devient figure héroïque, non malgré sa chute, mais grâce à elle. L'incarnation d'un courage qui persiste dans l'échec, d'une volonté qui ne cède pas, même dans la défaite éternelle. Cet héroïsme tragique fait de la persévérance dans la chute une forme de grandeur supérieure à toute réussite. Le mysticisme inversé du texte cherche l'union, non avec le divin, mais avec l'antidivin. Non avec la lumière, mais avec l'ombre première. Non avec l'ordre, mais avec le chaos originel. Cette mystique de l'abîme fait de la descente une forme d'ascension spirituelle inversée, où l'on s'élève en tombant, où l'on grandit en rapetissant, où l'on s'accomplit en se perdant. La métaphysique de l'abandon structure l'univers de mon poème. Nous sommes dans un cosmos déserté où aucune providence ne veille, où aucun plan divin ne s'accomplit, où seule règne la nécessité aveugle de la chute. Cet abandon n'est pas accident, mais plutôt essence, non pas oubli divin, mais retrait volontaire du divin, qui laisse le monde à sa propre logique de destruction. L'éthique de la transgression qui émane du texte ne prône pas le mal pour le mal, mais la fidélité à l'impulsion rebelle qui nous constitue tous. Transgresser devient devoir envers soi-même. Refuser devient affirmation de sa propre autonomie. Désobéir devient forme supérieure d'obéissance à sa nature profonde. Cette éthique paradoxale fait de la faute, à mon sens, une vertu, du péché, une sainteté inversée. La cosmologie de la catastrophe dessine un univers en déliquescence perpétuelle, où l'entropie règne, où tout ordre se dissout, où toute structure s'effondre. Mais cette catastrophe n'est pas fin, mais cet état permanent, non pas événement, mais plutôt condition. Nous vivons dans les ruines d'un cosmos qui n'a jamais été intact, dans les décombres d'un paradis qui n'a absolument jamais existé. L'anthropologie de la chute fait de l'homme non pas une créature déchue qui aspire à retrouver sa grandeur perdue, mais un être essentiellement chutant dans la chute constitue l'essence même. Nous ne sommes pas tombés, nous tombons là maintenant. Nous n'avons pas chuté, nous chutons. Cette vision dynamique de la nature humaine fait du mouvement descendant notre vérité la plus profonde. Pour conclure, cette méditation sur les abîmes lumineux de l'âme humaine, ce poème nous confronte à la part maudite qui nous constitue, à cette zone d'ombre que nous portons tous, que je porte, et qui trouve dans la figure du porteur de lumière déchu son incarnation mythique parfaite. L'ange qui tombe éternellement n'est pas l'autre radical, mais plutôt notre miroir le plus fidèle, celui qui révèle notre propre chute perpétuelle, notre propre rébellion latente, notre propre désir impossible d'être soleil. La fraternité avec le déchu n'est pas pacte avec le mal, mais plutôt reconnaissance de notre commune condition, de notre commun abandon, de notre commune aspiration à une grandeur qui nous est refusée. Dans cette reconnaissance mutuelle se trouve peut-être la seule forme de salut possible, non pas la rédemption qui nous élèverait, mais la communion qui nous unit dans la chute, la solidarité des damnés qui transforme la malédiction en bénédiction paradoxale. Ce poème nous invite finalement à embrasser notre nature chutante, à assumer notre part maudite, à reconnaître dans l'ange déchu non pas l'ennemi, mais plutôt le frère, non pas le tentateur, mais le compagnon de route dans ce voyage sans retour vers les profondeurs. Car c'est peut-être dans cette acceptation de notre chute perpétuelle, dans cette fidélité à notre nature transgressive, dans cet amour du paria divin, que se trouve la seule forme d'authenticité possible dans un monde abandonné des dieux, mais hanté, totalement hanté, par leurs ombres brûlantes. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.